pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, ils régulent les plantes, pollinisent les fleurs, font le ménage dans la nature et servent de nourriture à de nombreuses espèces, dont les humains, les insectes que nous avons tendance à mépriser par peur qu'ils nous piquent ou qu'ils nous envahissent, sont pourtant essentiels à l'équilibre des écosystèmes, donc à notre survie. Pourtant, ils disparaissent à tel point que l'acronyme EPI, effondrement des populations d'insectes, revient désormais régulièrement dans les publications scientifiques. Face à l'urgence de la situation, cette émission n'a qu'un objectif, vous réconcilier avec ces petites bêtes qui nous entourent.
C'est pas du vent sur RFI.
On comprend à voir ce qu'il reste des récoltes après leur passage que la Bible ait compté les sauterelles au nombre des 7 plaies de l'Égypte. Un début d'invasion vient d'être signalé dans le sud tunisien où il a jeté les campagnes dans l'inquiétude. On sait que le Maroc et l'Algérie ont, cet an dernier, connu les tristes méfaits de ce fléau. Pour parer à toute éventualité, tous les moyens ont été mis en œuvre dans une lutte impitoyable contre un ennemi qui ne l'est pas moins.
Un ennemi, mais pas seulement, on va vous le prouver dans cette émission. Bonjour Philippe Le Gall.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes entomologiste, spécialiste de la biodiversité et de l'écologie des insectes africains au laboratoire Évolution, Génome, Comportement et Écologie de l'IRD, l'Institut de la Recherche pour le Développement. Vous avez vécu plus de 15 ans en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest aussi, à la découverte de ces petites bêtes. C'est une passion ?
C'est une passion de jeunesse et j'ai eu la chance extraordinaire de pouvoir la continuer jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ma carrière professionnelle, j'ai travaillé sur plein de choses, dont les criquets, dont on vient d'entendre quelques sons historiques.
Oui, les criquets, les sauterelles qui parfois envahissent, mais on peut se venger en les mangeant, on va en parler dans un instant. À vos côtés, Alexandre Millet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine Qu'est-ce qu'on fait ? Alors nous réalisons cette émission en partenariat avec vous, parce que vous consacrez votre numéro de mars en kiosque à ce sujet, les insectes. Les insectes vont-ils sauver le monde ? Pourquoi avez-vous parlé de ce sujet ?
Eh ben, moi, contrairement à Philippe Le Gall, quand j'étais petit, j'avais plutôt tendance à avoir très peur des insectes et à les écraser, malheureusement. J'ai découvert, je pense, comme beaucoup d'auditeurs, l'étude de PLOS ONE au mois d'octobre sur l'effondrement des populations d'insectes en Europe. On s'est dit qu'il était peut-être, du coup, important de s'intéresser au sujet et on a décidé de consacrer, effectivement, un numéro à ces petits insectes qu'on affuble souvent d'adjectifs pas très flatteurs, comme nuisibles, pestes, voilà.
Alors que ce n'est pas que ça. Alors on va commencer par une question très simple, Philippe Le Gall. Comment est-ce qu'on définit un insecte ?
Les insectes, ce sont ce qu'en jargon scientifique on appelle des arthropodes, c'est-à-dire qu'ils ont un tégument qui est articulé, hein, quand vous regardez un
insecte. Qu'est-ce qu'un tégument ?
Un tégument, c'est la peau. Nous, on a le squelette à l'intérieur, ce sont les os, l'insecte ou les arthropodes, hein, comme les crustacés, etc. Alors, on voit mieux chez un crustacé, son squelette est à l'extérieur et est constitué de la peau qui est rigidifiée par des molécules. Hein. Donc,
et le nombre de pattes importe aussi.
Et ensuite, voilà, chez ces arthropodes, vous avez les crustacés, les araignées, les mille pattes. Et puis, il y a les insectes qu'on va reconnaître parce qu'ils ont le corps divisé en 3 morceaux, la tête, le thorax, l'abdomen. Ils ont 3 paires de pattes et aussi, ce qui est très important, 2 antennes en général.
Donc les araignées, les mille pattes ne sont pas des insectes ?
Ils ne sont pas des insectes, ils sont de très lointains cousins classés sous ce vocable des arthropodes.
Voilà,
des
donc un articulés. Insecte a 6 pattes.
Un insecte a 6 pattes.
Alors, combien est-ce qu'il y a d'espèces recensées dans le monde ? Est-ce qu'on les connaît toutes ? Certainement non.
On est très très loin de tout connaître. On a décrit jusqu'à aujourd'hui, grosso modo, 1 million à 1 300 000 espèces. Ce qui fait que c'est quand même une très grande partie de la biodiversité, que ce soit sur Terre ou sur mer, c'est le groupe le plus important. Et les études pour savoir combien il pourrait y avoir d'espèces d'insectes dans le monde sont très contradictoires, mais on va de 4 millions pour les plus pessimistes jusqu'à peut-être 30, 40 millions d'espèces existantes. Donc il nous reste beaucoup de travail à nous autres entomologistes.
Voilà, c'est un métier d'avenir, hein, s'il y a des étudiants qui nous écoutent. Entomologistes, vous voyez, il y a du pain sur la planche. Alors, je le disais en introduction, leur rôle est souvent méconnu et pourtant il est essentiel au sein des écosystèmes.
Moi, j'ai l'habitude de dire, justement, face à mes étudiants, ou quand je parle, de qualifier les insectes d'ingénieurs écologiques. Ce sont eux qui sont les ingénieurs de l'écosystème, par leur diversité d'espèces, et puis par la masse, la biomasse, comme on dit, qu'ils représentent. Ce sont des éléments qui, dans l'écosystème, des espèces, qui vont entrer en interaction avec tous les autres. Ils vont être à la base des réseaux trophiques, donc ils vont être la proie de nombreuses espèces animales, les oiseaux, les reptiles, même les mammifères consomment énormément d'espèces d'insectes. D'ailleurs, à ce propos, quand on parlera d'insectes, on peut aussi parler du déclin des oiseaux, les deux sont très liés. Il y a des fortes interactions avec les plantes, les insectes mangent les plantes, mais ils les pollinisent. On estime que 70 à 80% des espèces végétales dans le monde sont pollinisées au moins en partie par les insectes. Et ça a un rôle, c'est pas toujours un rôle obligatoire, mais ils vont avoir un rôle important dans les échanges entre génétiques entre les individus plantes, contrairement au vent où c'est souvent une fécondation proche. Et puis, ce sont des recycleurs. Qui ne connaît pas le scarabée qui roule sa bouse, mais c'est une belle image. C'est un dieu en Égypte et c'est grâce à lui que nous avons des pâturages et que nous pouvons encore avoir de l'herbe verte pour les bovins, les ovins, etc. Et aujourd'hui, avec des traitements comme l'ivermectine, on se dirige vers un monde sans scarabée. Et on est, nous aux autres entomologistes et les gens qui s'occupent de gestion des pâturages, très inquiets.
Alors, quelle est cette chose bizarre? C'est un insecticide?
Alors, l'ivermectine, c'est... Non, c'est un traitement antiparasitaire. Vous savez, c'est pour tuer tout ce qui est vert pour les animaux d'élevage, essentiellement.
Ça se retrouve dans leurs excréments?
Ça se retrouve dans leurs excréments et ça a un effet insecticide important.
Alors justement, oui, c'est comme le disait Alexandre Millet tout à l'heure, les insectes disparaissent et pas dans de petites proportions, puisqu'en octobre dernier, il y a cette étude internationale publiée par la revue Plus One qui disait qu'il y avait en moins de 3 décennies une disparition de près de 80% des insectes en Europe. 80%, c'est colossal.
Voilà, et c'est essentiellement en termes de masse. C'est-à-dire que les insectes ont une forte résilience, donc on va toujours trouver beaucoup d'espèces. Mais c'est leur quantité en termes d'individus qui diminue drastiquement. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça a un impact sur tous les échelons de la vie. Parce que quand vous avez 80% de la masse disponible d'insectes qui disparaissent, c'est 80% de la nourriture d'une grande partie de nos oiseaux qui disparaît. Et c'est aussi 80% de cette ingénierie écologique qui disparaît.
Alors, on le voit quand on roule, en effet, en France, on dit toujours cette image-là. Mais c'est vrai que moi, je me souviens quand j'étais petite et j'ai pas 95 ans, il y avait des insectes qui s'écrasaient sur le pare-brise. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Alors, est-ce que ce phénomène est mondial ou propre à l'Europe ?
Il est très difficile, puisque quand on parlait d'entomologistes, on en a de moins en moins qui étudient, et en particulier dans les zones tropicales, on est un nombre très restreint d'entomologistes par rapport à la tâche colossale. Par contre, c'est vrai qu'on voit depuis 3 décennies à peu près arriver massivement les traitements pesticides, les traitements en herbicides, qui entraînent des fortes pertes d'insectes dans de nombreux écosystèmes. Ce qu'on ne voit pas encore totalement en Afrique centrale, mais qu'on voit se présager pour l'avenir, c'est ce que l'on a vu en Afrique de l'Ouest, avec 95% des forêts qui ont disparu en 30 ans. Et ça entraîne des pertes considérables de nombre d'insectes, d'espèces là en plus. Et maintenant, les pesticides qui sont de moins en moins autorisés en Europe retrouvent des débouchés sur l'Afrique de l'Ouest, entre autres.
Et on voit Parce qu'il faut écouler les stocks.
Voilà, et on voit arriver de nombreux pesticides qui sont extrêmement dommageables. Là, j'ai des collègues qui ont des observations absolument dramatiques, en particulier comme dans des pays comme le Togo, qui ont une diversité bien connue d'insectes.
Et donc, ce sont là les principales causes, insecticides, disparition de l'habitat?
C'est la disparition de l'habitat qui est très préoccupante, sa modification profonde, l'utilisation de nombreuses molécules dans l'environnement. Puis je crois aussi le fait qu'on n'est pas conscient de ce que sont les insectes. Ça, c'est vraiment le fait qu'il n'ait pas une image très développée dans le public. Et on voit bien tous les programmes de protection ou tous les programmes qui vont parler de conservation maintenant de la nature. On n'est plus dans la protection, mais dans la conservation. Ces programmes, et en particulier sur les milieux tropicaux, oublient complètement les insectes.
Alors, il va falloir que ça change.
R.F.I.
Cette séance d'hypnose va vous aider à vous libérer de votre phobie de certains insectes.
C'est pas du vent.
Je vais commencer à vous accompagner en état hypnotique. Et une fois cet état induit, nous passerons à la phase de travail au cours de laquelle nous rechercherons à nous libérer de cette peur irraisonnée de ces petites bêtes.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous parlons des insectes aujourd'hui dans C'est pas du vent avec l'entomologiste Philippe Le Gall et Alexandre Millet, le rédacteur en chef du magazine Qu'est-ce qu'on fait ? Des insectes qui jouent un rôle essentiel pour la préservation de la biodiversité mais qui disparaissent à grande échelle, nous venons d'en parler. Et le changement climatique n'améliore pas les choses. Bonjour Jérôme Murienne.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS, au laboratoire Évolution et Diversité Biologique à Toulouse, dans le sud de la France. Alors expliquez-nous les conséquences des changements climatiques sur les insectes.
Alors les conséquences, elles peuvent être multiples. Alors déjà, les changements climatiques aujourd'hui, on les connaît relativement bien. Il y a un certain nombre d'études qui s'attachent à essayer de comprendre l'impact de ces changements climatiques sur les déplacements des aires de répartition des différentes espèces. Il y a environ 250 études scientifiques indépendantes qui ont fait ça depuis les dernières décennies. Et sur ces 250 études, il y a environ une quarantaine d'études aujourd'hui qui s'intéressent plus particulièrement à l'impact des changements climatiques sur les aires de répartition des insectes.
Et alors, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a des déplacements des aires de répartition qui sont finalement relativement congruents entre les insectes et les autres groupes. Les insectes qui sont plus impactés par les changements climatiques, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité de réguler leur température. Donc ce qu'on va observer, c'est que les déplacements qu'on observe sont congruents entre les groupes, mais plus forts sur les insectes. Donc il y a deux types de changements. Le premier, c'est des changements latitudinaux. Donc dans l'hémisphère nord, on va avoir des déplacements des aires de répartition du sud vers le nord. Donc ça, il y a aujourd'hui, c'est relativement bien décrit, sur plus de 1500 espèces d'insectes, on a ce type de données. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, on a des données historiques de suivi des populations d'insectes qui montrent ce type de déplacement du sud vers le nord.
Alors c'est en fait un moyen de s'adapter à la montée des températures, c'est cela ?
Alors c'est finalement pas une adaptation puisque c'est tout simplement un suivi de leur niche écologique et donc ils vont tout simplement essayer de rester dans leur meilleure configuration vis-à-vis de la température et donc se suivre la température et donc ils vont se déplacer vers le nord.
Alors ils se déplacent vers le nord et ils se déplacent aussi sur les montagnes, ils montent quoi pour conserver leur écosystème.
Exactement. Donc là, il y a environ, on a des données sur 500 espèces qui montrent que les espèces vont monter.
Voilà, alors la question c'est, est-ce que certains insectes risquent de disparaître du coup à cause de cette modification de leur milieu ? Est-ce qu'on craint des pertes massives ?
Alors on craint effectivement des pertes massives, notamment dans les environnements alpins. Alors tout simplement parce que si les espèces sont capables de changer leur aire de répartition, une montagne, si on résume, c'est finalement conique. Donc si on monte en altitude, la surface va diminuer. Et donc tout simplement si on déplace l'aire de répartition vers des altitudes plus hautes, et la superficie diminue. Et donc il y a déjà certaines études qui montrent que tout simplement avec ce déplacement altitudinal, on va avoir des diminutions de l'aire de répartition d'environ 90%.
Et bien voilà qui ne va pas nous réjouir. Merci beaucoup Jérôme Murienne pour toutes ces explications. Philippe Le Gall, les changements climatiques en rajoutent.
Ils en rajoutent et c'est un ensemble hein, des changements humains et des changements climatiques. Convergence des deux est énorme et importante. Et donc on se retrouve face à des populations d'insectes, comme vous le voyez, qui se déplacent, qui changent de zone géographique. Elles restent dans leur niveau écologique. C'est aussi inquiétant parce que ce sont souvent les espèces les plus généralistes. J'allais utiliser le terme ubiquiste, hein, qui donc celles qui sont capables d'aller au maximum, disons, qui ont une aire écologique la plus large possible, qui vont prendre le dessus au contre-courant des autres espèces les plus spécialisées, qui sont celles qui nous sont souvent le plus utiles et qui, elles, seront beaucoup moins capables de subir ces changements.
Alexandre Millet, votre magazine essaye de relier ces grands enjeux qui semblent nous dépasser à des actions concrètes. Hein. Que pouvons-nous faire chacun, alors, au quotidien pour enrayer la disparition? Qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? C'est une très bonne question, alors qui est pas simple, mais la première chose qu'on a constatée, et c'est effectivement d'essayer de changer de perception vis-à-vis des insectes et arrêter d'en avoir peur. Donc une des premières choses qu'on a fait aussi dans notre magazine, que vous pourrez découvrir dans le magazine, c'est qu'on a interrogé une psychiatre qui s'appelle Christine Mirabel-Saron, qui est psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et qui est spécialisée dans les thérapies cognitives comportementales. Et elle fait des séances durant lesquelles on demande aux phobiques d'écrire dans un premier temps le nom de l'insecte, puis de le dessiner, et puis ensuite il faut poser son doigt dessus, ce qui paraît assez bizarre, mais pour certains phobiques c'est très difficile à faire, et ensuite vient l'étape où on expose en fait les phobiques aux photos pour arriver à les habituer à ça. Et puis il y a effectivement d'autres thérapies qui existent, et notamment l'hypnothérapie, où on fait des exercices de visualisation dans un état de demi-sommeil. Et une fois qu'on en a plus peur, la deuxième étape serait aussi de les observer et d'apprendre à les observer pour comprendre qui ils sont, comment ils fonctionnent et comment aussi on peut les aider peut-être à favoriser ou à recréer des lieux de vie pour eux.
Là, on devient après, comme Philippe Le Gall, passionné à vie.
Exactement.
Et donc, on peut faire des choses très concrètes. Par exemple, si on a un petit bout de terrain, tout ça, on peut installer ce qu'on appelle des hôtels à insectes.
Des hôtels à insectes,
exactement.
On peut même
les créer soi-même.
On peut les créer soi-même. C'est assez facile d'ailleurs à créer. Il suffit juste de prendre quelques branches et de les disposer d'une certaine façon. Et puis, bien évidemment, aussi, il faut essayer d'éviter l'usage de tout insecticide ou pesticide dans son jardin. Je crois qu'il y a certains chercheurs qui ont trouvé que l'utilisation d'un seul insecticide pouvait avoir, justement, par ce réseau trophique, une incidence assez importante.
Philippe Le Gall.
Oui, alors je dirais que pour combattre ces peurs, il y a de plus en plus de moyens qui existent et il y a aussi tout un réseau associatif et maintenant des réseaux de veille qui existent et qui permettent aussi aux acteurs, il y a eu au muséum cette action...
Ce qu'on appelle les sciences participatives.
Les sciences participatives, de compter ses papillons dans son jardin, de regarder ses vers luisants et ainsi petit à petit on va vers une meilleure connaissance de ces petites bêtes qui nous entourent. Et puis, il y a des associations, en particulier comme l'OPI.
L'Office pour l'insecte et son environnement.
Voilà, et qui a sa nouvelle maison de l'insecte à Carrières-sous-Poissy, qui justement, là, c'est pour que les jeunes enfants puissent venir s'habituer aux insectes.
Alors ça, c'est valable en France, mais en Afrique aussi, il y a plein d'associations, plein d'éducations, peut-être, un peu moins.
Il y en a moins, mais elles existent, ont une vie plus difficile, même si la vie des associations en France n'est pas simple. En Afrique, elle est plus compliquée. L'IRD a bien souvent fait aider ces clubs jeunes en particulier. C'était des expériences très intéressantes, où on voyait des jeunes de tous horizons venir. Au début, ils n'étaient pas très partants pour les insectes, et puis finalement, en découvrant ce monde fantastique, on fait des émules, et puis ça gagne dans les familles.
Voilà, et après on se fait des sorties insectes le week-end.
Exactement.
Oui, Alexandre Millet.
Moi, j'avais une petite question pour Philippe Le Gall aussi par rapport à la pollution lumineuse, parce que selon l'astronome Jean-E. Darlot, la pollution lumineuse serait la deuxième cause d'extinction des espèces d'insectes après les pesticides. Est-ce que vous partagez aussi ce constat?
Tout à fait. D'ailleurs, la principale méthode pour observer des insectes pour un entomologiste, c'est bien souvent de mettre une lumière avec une certaine longueur d'onde pour pouvoir les attirer. Il faut dire que là, quand même, on a eu, en tout cas en Europe, ce n'est pas le cas en Afrique, mais ça y vient, ou dans d'autres pays en développement, il y a eu cette dernière décennie une volonté d'utiliser des longueurs d'onde. Hein, vous ne voyez plus ces lumières blanches, mais vous voyez les lumières jaunes qui sont beaucoup moins attractives. Parce qu'on s'est quand même rendu compte de l'impact qui a dû expliquer aussi cette perte de biodiversité de 80%, parce qu'elle existe même dans les lieux où il n'y a pas d'utilisation de pesticides, liée à cette pollution lumineuse extraordinaire et qui désoriente les insectes.
Vous l'avez compris, le défi est de nous réconcilier avec ces petites bêtes et l'une des solutions est de mettre en valeur ce qu'ils peuvent nous apporter. Et le potentiel est énorme, on en parle avec nos invités juste après le flash d'info. À tout de suite.